RCF.
Michel Canel, nous poursuivons la découverte de votre livre paru aux éditions des Clés de Brouwer, un livre que vous avez intitulé « Connaître Dieu à travers Jésus, une initiation au christianisme ». Tout un programme donc qui passe par l'évocation de rencontres que Jésus fait tout au long de sa vie publique. On a parlé des disciples, des apôtres, de la manière dont il les rencontre et dont il les envoie. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur des rencontres, disons, un peu improbables. On dirait que par moments, Jésus prend un peu un malin plaisir à aller vers ceux vers qui il ne faut pas aller selon la loi juive et selon les codes de l'époque et de la société dans laquelle il est.
Alors effectivement, au niveau des rencontres que j'étudie, il y a l'appel de Matthieu et puis un repas ensuite dans une maison qui est sans doute la maison de Matthieu. Et voilà donc que Matthieu n'est pas n'importe qui. Matthieu est un publicain ou un collecteur d'impôts, c'est-à-dire c'est un homme au service des Romains qui collectait les finances des citoyens de la terre juive pour l'Empire romain. Donc il était en collision totale avec l'occupant. Évidemment, il était sans cesse en situation d'impureté, puisque fréquenter des païens de façon aussi constante, c'était une impureté permanente. Et en plus de cela, comme la puissance en question était une puissance occupante, donc qui faisait du tort à la liberté des Juifs.
Il était considéré comme un traître ?
Absolument. Alors non seulement Jésus va appeler ce bonhomme, qui d'ailleurs répond très vite, il lui dit « suis-moi » et l'homme le suit. Mais alors après, il y a un repas, c'est sans doute chez Matthieu que ça se passe. Matthieu a invité autour de Jésus ses collègues. Donc voilà que Jésus va se trouver d'un seul coup avec ses disciples, les quelques premiers qu'il a recueillis avant Matthieu. Il va se trouver chez ce bonhomme, évidemment. Les bien-pensants du côté juif vont lui faire le reproche. Alors, ils vont s'adresser soit à lui, soit à ses disciples. Enfin, comment cet homme mange avec les publicains et les pécheurs? C'est insupportable. Et alors, c'est tout à fait intéressant parce que, d'abord, Jésus rappelle que ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Et il déplace la question. Les pharisiens qui interrogent disent « il manque avec les publicains et les pécheurs ». Il les catégorise avec des articles définis. Et Jésus
répond, Il les enferme,
voilà. Et Jésus répond, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il ne classe pas les gens en catégories. Ça, c'est fondamental. On a tous tendance à classer les gens, c'est tellement simple. Hein. Celui-là, c'est un menteur, celui-là, c'est un voleur, etc., etc. Jésus refuse ce type de classement. Donc, Matthieu a beau être un collaborateur de la puissance romaine, Jésus se laisse inviter par lui, montrant par là qu'effectivement, il se fait proche des personnes qui sont dans la difficulté, y compris des personnes qui, d'une certaine façon, sont très peu en accord avec la foi juive.
Et puis, il y a un autre moment très frappant, parce que cette fois, il concerne une femme accusée d'adultère, prête à être lapidée par des messieurs bien comme il faut. Jésus est là et va complètement bouleverser le cours des choses.
Alors, il est très habile, hein, il réagit avec énormément d'habileté vis-à-vis de tout le monde et vis-à-vis des accusateurs. Et vis-à-vis de la femme. On accuse cette femme d'avoir été surprise en flagrant délit d'adultère. On ne sait pas ce que devient le bonhomme d'ailleurs, hein, parce que normalement le bonhomme aurait dû être lapidé lui aussi.
Mais il n'en est pas question là dans ce texte.
Apparemment, il a disparu. Et Jésus a besoin de temps pour réfléchir. Et il se met à baisser la tête et à écrire avec son doigt sur le sol. On dit d'ailleurs que c'est la seule chose que Jésus ait jamais écrite. On ne sait pas s'il a fait des dessins, des signes, quelque chose comme ça. S'il refusait la lapidation, il serait à ce moment-là ennemi de la loi juive, mauvais pratiquant, et il se ferait accuser fortement. Alors il est plein d'astuces, parce que finalement, après avoir réfléchi, il dit « Ben, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Alors ils sont coincés. Ils sont coincés, et en particulier, ceux qui sont le plus lucides sur leurs conditions de pécheurs, ce sont les plus âgés. Donc eux partent en premier.
Pour les présenter, ces deux rencontres, celle avec le publicain et celle avec la femme adultère, vous dites « Dieu fait d'abord miséricorde ».
Alors il fait miséricorde, effectivement, et en plus de ça, après à la femme, parce que Jésus va se retrouver seul avec la femme ensuite. Alors quoi faire? Et là encore, il est remarquable, parce qu'il dit à la femme « Personne ne t'a condamné ?» Elle répond « Non, personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » C'est-à-dire qu'il permet à cette femme, au lieu de la coincée dans sa condition de pécheresse, il lui fait confiance en sachant qu'elle est capable de se convertir. Et finalement, ce qui lui est arrivé d'avoir commis l'adultère, ce qui lui est arrivé, finalement, Jésus pense qu'elle est capable de se changer. Et ça, c'est merveilleux, parce que faire miséricorde, c'est cela. C'est penser qu'on peut pardonner parce que les gens peuvent tirer un bien supérieur d'un pardon reçu.
Michel Quesnel, on vient de le voir, Jésus rouvre un horizon ou ouvre un horizon à ceux et celles dont on pourrait penser qu'ils sont enfermés dans une situation, dans un état, avec donc le publicain et la femme adultère, on vient de le voir. Mais il a aussi des rencontres étonnantes, celles dont on va parler maintenant. Tout d'abord avec deux femmes qui sont sœurs, Marthe et Marie. Et au cours de cette rencontre, il se passe quelque chose alors qui peut faire sourire, qui fait souvent sourire, mais qui est riche d'enseignements, comme toujours, évidemment.
C'est une très jolie scène. Ça se passe à Béthanie, à proximité de Jérusalem. Ce sont des amis de Jésus. Ils se retrouvent chez les deux femmes. Alors, elles ne réagissent pas de la même façon. Marie manifeste son attachement à Jésus en écoutant ce qu'il dit. Marthe manifeste son attachement à Jésus, en se dépensant dans tous les sens pour que le repas soit bon, la nourriture soit bien servie, que Jésus soit bien soigné, etc. Donc chacune fait ce qu'elle peut avec son tempérament.
Mais Marthe râle.
Alors Marthe, elle s'adresse à Jésus de façon totalement déplacée, puisqu'elle donne des ordres à son invité. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à servir. Dis-lui donc de m'aider. » Alors elle est très impolie. Jésus ne va pas la rembarrer. Il va, comme la remettre à sa place gentiment, tu te fais du souci, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, et alors après il y a une phrase superbe qui est en général très mal traduite, Marie a choisi la bonne part. On traduit souvent par la meilleure part. Je suis désolé, le comparatif n'est pas dans le texte. Jésus ne compare pas les gens. Marthe, tu fais selon ton tempérament pour me faire plaisir. Marie fait son tempérament. Fait selon son tempérament pour recevoir ce que je suis en mesure de lui donner. Les deux sont bonnes. La part de Marie n'est pas mauvaise, mais la tienne non plus, Marthe. Et quand on a introduit un comparatif, on a fait de Marthe les dames qui doivent être au service et au torchon et à la cuisine, alors que les contemplatives seraient mieux. Mais c'est complètement idiot. C'est fausser complètement le sens du texte. Les deux femmes ont des égards pour Jésus, même si Marthe se comporte mal en étant impolie avec son invité. Mais il est bien de faire comme Marthe et il est bien de faire comme Marie.
Jésus ne juge pas.
Il ne compare pas, il ne juge pas, absolument.
Encore une fois, il n'enferme personne dans des catégories.
Tout à fait.
Ni même la Samaritaine. C'est un des moments les plus connus, les plus commentés des évangiles. Cette femme qui vient chercher de l'eau au puits alors qu'il fait très chaud. Et qu'aucune autre n'est là, elles sont toutes à l'abri du soleil. Elle vient au moment où le soleil est le plus haut, le moment où le soleil est au zénith. Pourquoi ?
Alors, on découvre dans la suite du récit, pas dans les premières lignes, mais dans la suite, que cette femme, finalement, a une vie sentimentale et sexuelle totalement perturbée. Elle a eu plein de maris, et elle est maintenant avec un bonhomme qui n'est pas son mari. Conclusion, elle est une paria chez les gens de son village. Alors que d'habitude, pour aller chercher de l'eau au puits, vous savez que dans l'Antiquité, on ne verrait presque jamais un homme porter une cruche d'eau. C'était une tâche féminine. Mais les femmes y allaient en général ensemble. Comme c'est une paria, elle vient seule. Et Jésus s'adresse à elle en lui disant « Donne-moi à boire ». C'est une demande, c'est pas un ordre. Alors elle est tout à fait étonnée parce que lui est juif, elle est samaritaine. Et entre juifs et les samaritains, les relations sont très mauvaises. Mais alors, ce qui est merveilleux, c'est que progressivement, Jésus conduit cette femme qui, au départ, reçoit une demande de la part de Jésus à être elle-même une demandeuse. Jésus annonce qu'il va procurer aux gens qu'il va rencontrer une eau vivante. Et bien dire, alors si tu me donnes de l'eau vivante, j'aurais pu venir ici pour puiser. Et Seigneur, donne-moi cette eau-là. Alors Jésus, effectivement, lui dit effectivement que cette eau-là, il est en mesure de la lui procurer. Et il finit par lui dire, alors qu'elle lui pose la question, on dit que le Messie doit venir, il finit par dire à une femme qu'il est le Messie. Et jamais il ne dira cela à des Juifs.
Elle le comprend ?
Parce que les Samaritains attendaient aussi un sauveur, qu'on appelle le Taïb en Samaritain.
Donc ça n'est pas aux Juifs qu'il le révèle, mais à une Samaritaine.
Bah absolument, parce que si vous voulez, si il le révélait à des Juifs, aussitôt on penserait qu'il est un libérateur guerrier.
Politique.
Et qui ficherait les Romains dehors. Alors il a une toute conscience de sa mission, il vient apporter tout à fait autre chose. Donc il accepte d'avouer à une Samaritaine qu'il est le Messie, et le dire lui-même, je le suis, moi. Alors que chez les Juifs, ce sont eux qui vont être conduits à découvrir qu'il est le Messie, mais il ne le dira jamais.
Qu'est-ce que ça nous dit de Jésus et de Dieu, cette scène ?
Cette scène, ça me dit d'abord que Jésus est tout à fait prêt à parler avec une femme, à parler avec une femme pécheresse, à parler avec une femme étrangère, et finalement que la relation qui se construit au cours d'une conversation peut aider les gens à bouger. Lui-même bouge, puisqu'au début il est demandeur et après il est offrant, et elle-même bouge, parce qu'au début elle est celle à qui on demande, évidemment elle devient demandeuse. Et je trouve que c'est merveilleux que dans une conversation relativement brève, qui dure sans doute quelques quarts d'heure, les deux personnages puissent être conduits à se, si j'ose dire, se convertir l'un par l'autre. Jésus se laisse changer par cette femme et il est conduit aussi à la changer elle-même.
À demain, Michel Quesnel.
À demain.
Merci.